France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Ce qui se passe en ce moment ressemble en fait beaucoup à la période pré-crise. Le marché est redevenu complètement fou. Les prix augmentent à une vitesse anormale. Ça va beaucoup trop vite.
Ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est que les logements abordables sont ceux dont les prix augmentent le plus.
La réserve fédérale américaine a mis deux balles dans le cœur de toute une génération. Et c'est pour cela qu'il y a de la colère.
Dix ans après la faillite de Lehman Brothers, France Culture revient cette semaine sur les effets de la grande crise financière de 2008. Aux États-Unis, l'explosion de la bulle immobilière avait frappé de plein fouet la Floride, la Californie, le Nevada et l'Arizona. Plus de 40% des saisies immobilières qui ont suivi la crise ont été menées dans ces quatre États. Pour les propriétaires occupants, la saisie a signifié l'expulsion et la vente de leur logement aux enchères à prix cassé. À Phoenix en particulier, les fonds financiers venus de Wall Street ont profité de cette incroyable chute des prix pour acheter des maisons par milliers. Ils sont ainsi devenus des acteurs majeurs de la location, des bailleurs plus préoccupés par la rentabilité de leurs investissements que par le bien-être de leurs locataires. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier grimpent en flèche dans la capitale du Nevada. Devenir propriétaire est un luxe que peu d'habitants peuvent s'offrir et des ménages modestes ont de plus en plus de mal à trouver un loyer correspondant à leurs revenus. Phoenix est ainsi devenue la deuxième ville américaine où il y a le plus d'expulsions locatives. De la crise des subprimes à la crise des sans-abri, c'est un reportage signé Marie Vienne. Dans Grand Reportage, nouveau nom du magazine de la rédaction avec également un nouvel habillage, nous recevons aujourd'hui Norbert Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et consultant indépendant, spécialiste des agences de notation et du risque souverain. Vous allez écouter avec nous le reportage de Marie Vienneau auquel vous réagirez tout à l'heure. Marie, quand vous êtes partie en Arizona, vous aviez dans l'idée d'interroger des personnes expulsées de leur maison pour savoir où elles en étaient, 10 ans après. Mais au fil de vos rencontres, vous avez découvert une réalité un peu différente que celle que vous imaginiez.
Et oui, parce qu'on a beaucoup dit que c'est parce qu'on avait prêté à des ménages pauvres qui n'auraient jamais dû être propriétaires que cette crise était arrivée. Et je pensais en trouver donc facilement, mais pas du tout. Les Américains que j'ai rencontrés avaient des revenus tout à fait convenables quand ils ont emprunté. Et ce sont les conditions abusives de leurs prêts à taux variable qui les ont obligés à faire défaut et donc à être expulsés. Et quand j'ai cherché dans les quartiers populaires des ménages pauvres, noirs, hispaniques, qui auraient été propriétaires avant la crise, j'ai fait chou blanc. Alors il y en a à Phoenix, hein, c'est sûr, mais moi je n'ai rencontré que des éternels locataires. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que s'il y a eu autant de spéculation immobilière avant la crise, et la spéculation a été particulièrement forte dans ces quatre États que vous avez cités, c'est pour ça qu'ils ont été les plus touchés par les saisies après, c'est parce qu'à l'époque, on pouvait faire des prêts sans mettre aucun apport. Donc, ça a permis à des ménages modestes d'emprunter, mais aussi à des gens d'acheter 2, 3, 4, 5, 10 maisons, pour rien, puisque finalement, ils empruntaient la totalité, puis ensuite de les revendre. Donc, dans les saisies qu'il y a eu, il y a aussi eu beaucoup de ces maisons, en fait, finalement, qui n'étaient pas occupées par leurs propriétaires. Et quand tout cela s'est passé, nous étions, nous, ici, en Europe, obnubilés par nos propres crises, grecques, Irlande, et c'est à ce moment-là que le plus intéressant s'est produit, au moment de ces ventes aux enchères, qui étaient des grandes braderies, ventes aux enchères qui continuent, mais ne sont plus aujourd'hui directement liées à la crise financière.
Et votre reportage commence justement par l'une de ces ventes aux enchères, avec la lecture de la description des maisons mises en vente ce jour-là à Phoenix.
Je viens là tous les jours. Je participe aux enchères et j'achète des propriétés que je revends plus cher. Je fais aussi l'intermédiaire pour d'autres acheteurs. Ça me permet de gagner quelques milliers de dollars. Ça fonctionne bien aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le marché pourrait s'effondrer bientôt.
Est-ce que vous rencontrez parfois les gens qui sont saisis ?
Oui, généralement, on va voir les maisons avant les enchères et on essaie de parler aux occupants. Parfois, personne n'est là ou personne ne répond. Parfois, les gens ne sont pas de très bonne humeur à cause de tout ça, mais oui, je les rencontre. On leur donne un préavis de 5 jours et ils ont en général 20 ou 25 jours pour quitter les lieux. En gros, c'est un mois pour obtenir leur expulsion. C'est fini ? À combien elle est partie, cette maison ?
C'est sur l'esplanade, à l'entrée du palais de justice, que se tient la vente aux enchères de ce matin. Le soleil brûle déjà, il y a 10 maisons à prendre, une trentaine d'acheteurs potentiels.
Pour participer, il faut s'être inscrit, présenter un chèque de dépôt de 10 000 dollars et être sûr qu'on pourra apporter les fonds dans les 3 jours. Il y a un retraité pour qui c'est un hobby, un jeune couple qui vient voir si acheter ne serait pas moins onéreux qu'être locataire et un post-adolescent vêtu de blanc de la casquette au basket qui travaille pour un fonds spéculatif de Wall Street. Les enchères grimpent de mille en mille. Les deux derniers parieurs sont au téléphone pour vérifier que ceux pour qui ils parient acceptent de monter. On ne sait pas trop qui joue son propre argent ici. Et la société privée qui organise les enchères, non plus. Parmi les curieux potentiellement intéressés, il y a Jim et Leslie Davenport, un couple qui connaît bien les saisies pour en avoir vécu une de l'intérieur 3 mois avant la faillite de Lehman Brothers.
On a été saisi aussi. On avait une maison à Rhode Island, à 200 km à l'est de New York.
Oui, on a perdu notre maison, nos enfants étaient jeunes et on n'avait nulle part où aller, alors on est venu ici où on a de la famille.
Et finalement, ça aurait été très positif pour nous. Parce que quelques années après notre arrivée ici, on a pu acheter une maison de 4 chambres et 3 salles de bain. Pour 109 000 dollars. Aujourd'hui, elle en vaut plus de 300
000.
Alors au final, c'est positif. Notre quartier avant était mal famé. Et ici, j'ai trouvé du travail en une semaine. Le climat, en revanche, c'est pas génial. Il fait beaucoup trop chaud.
Combien de mois vous avez eu pour changer de vie? Ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue handicapée. Mes revenus sont passés de 65 000 dollars par an à 27 000. C'est une énorme différence. Et au même moment, notre prêt à taux variable est passé de 1 600 dollars par mois à...
En fait, c'était 1 800 dollars par mois. Et c'est monté à plus de 3 000 dollars.
Par mois ?
Oui, par mois.
Jim et Leslie habitent maintenant à Surprise, un quartier collé à une montagne, à 1 heure du centre de Phoenix et de toute activité intéressante. Leur fille avait 7 et 9 ans quand ils sont arrivés en Arizona après un voyage épique de 11 jours. Cela faisait 9 mois qu'ils ne payaient plus leur crédit. 1 800 dollars par mois, c'était faisable, mais 3 000, incompréhensible. Pourtant, Jim était alors agent immobilier.
On savait qu'il y avait un risque, mais on a estimé qu'il était très faible quand on a signé les papiers.
On ne pensait pas que nos mensualités pouvaient autant augmenter.
Mais ne vous avez pas prévenu ?
Non, à cette période, il y avait beaucoup d'abus de prêts usuriers et nous avons eu affaire à l'un de ces prêteurs rapaces. Ils vous prêtent à taux variable en sachant très bien que vous ne pourrez jamais rembourser et qu'à la fin, ils pourraient saisir votre maison.
Nous avons vécu dans cette maison 3 ans et nos intérêts s'élevaient à 144 000 dollars. Donc je ne me sens pas coupable vis-à-vis de la banque. Pour elle, c'était très lucratif. Ensuite, elle a vendu notre maison au voisin, un promoteur immobilier. Il l'a acheté pour 50 000 dollars, 6 mois après notre départ.
C'est une grande, belle maison. Elle fait 280 mètres carrés. Il y a 4 chambres, 3 salles de bain.
Et vous aimez vivre ici, vous ?
Non. En fait, je n'aime pas l'Arizona. D'abord, il y a la chaleur. Ensuite, vivre dans cette vallée me rend claustrophobe. Il y a des montagnes partout autour, pas beaucoup de couleurs. Les gens sont très fermés. En fait, personne ne parle à personne. Je ne connais aucun voisin ici.
Quand les gens arrivent, ils vont directement dans leur garage en voiture, ils rentrent chez eux, ils ferment la porte, ils ne sortent jamais. En Nouvelle-Angleterre, il fait plus frais le soir, alors les gens restent sur le porche, ils font attention les uns aux autres. Donc ici, c'est une belle maison, mais nos voisins à gauche et à droite parlent très peu anglais, ils sont hispaniques. De l'autre côté de la rue, en face, je ne sais même pas qui ils sont. Quand je suis arrivée ici, j'espérais rencontrer des gens, mais ça ne se passe pas comme ça.
L'espoir de Jim, c'est devenir lui aussi investisseur. Déjà, il a acheté, loué, revendu, mais aujourd'hui, il y a peu de maisons à prendre et les prix sont aussi hauts qu'avant la crise. La grande époque des saisies est passée. Lou, lui, était là. Acheter des maisons aux enchères, il fait ça depuis 15 ans pour d'autres et pour lui-même. Ah, il y a 10 ans, c'était une autre ambiance.
C'était énorme. Avant la crise, des maisons saisies et vendues aux enchères, il y en avait 5 à 10 par jour. Quand la crise est arrivée, il pouvait y en avoir 1000 dans la journée.
1000?
Oui.
Alors du coup, on pouvait acheter des maisons vraiment pas chères.
Cheap price, I guess.
Oui, tout à fait.
À condition d'avoir de l'argent.
Pour les investisseurs, ça a été une vraie aubaine. C'est triste que des gens aient perdu leur maison, mais ils sont responsables. Si vous achetez sans avoir les moyens, vous perdez votre bien. C'est comme ça.
Phoenix est l'une des villes qui a connu le plus de saisies immobilières après la crise financière. Au point que la télé en a fait un reality show avec Lou.
Phoenix, Arizona is America's largest battleground for real estate auctions.
36,000.
Go another 100.
A gambler's paradise where every day bidders wager small fortunes on houses they're only allowed to see from the outside.
Jackpot!
Dans Property War, la guerre immobilière, il y avait aussi John. Lou et John, éternels concurrents et amis, ils se souviennent de ce bon vieux temps quand la crise battait son plein.
Une piscine de sang avec des milliers de requins autour, c'était ça, une frénésie totale.
À qui appartenait le sang dans la piscine ?
Aux pauvres gens qui ont perdu leur maison.
Une piscine de sang et un millier de requins qui arrachent tout dans tous les sens, c'était complètement fou.
On n'arrivait pas à se frayer un chemin jusqu'aux enchères. Il y avait des centaines de personnes. Mon record, c'est 27 maisons achetées en une seule journée.
Parfois 20, parfois 30, il y en avait pour tout le monde.
C'était une période phénoménale. Honnêtement, c'est l'une des meilleures de ma vie. D'abord, j'adorais faire ça. J'adorais. Et en plus, on faisait un fric de dingue. C'était comme de vivre un rêve. Vous savez, dîner au restaurant, dépenser de l'argent, aller à Vegas, comme ça, c'était fou. Et pour couronner le tout, le reality show. Je me considère comme un gars très chanceux. Et si le marché redescend, là, on pourra dire que je suis franchement verni. En fait, j'attends que ça.
John, Property John, pour les réseaux sociaux, travaille de nouveau tout seul. Dans les années fastes de la crise, il avait embauché 10 personnes. Il travaillait beaucoup avec des investisseurs canadiens. Il classe ses concurrents en deux catégories. Les 20-40 ans, qu'il nomme Bargain Hunter, chasseurs de bonnes affaires, et les fonds financiers, qu'il nomme Price Agnostic, indifférents au prix. Des prix divisés par deux quand le marché s'est effondré, raconte Lou.
Au début, les banques ne savaient pas quoi faire de toutes ces maisons. Agents immobiliers, ce n'est pas leur métier. Alors elles ont paniqué, elles ont réduit le prix de départ des enchères et c'est là que les investisseurs se sont mis à acheter comme des fous. Les fonds spéculatifs ont acheté en masse en 2008, 2009, 2010. Ils se sont calmés à partir de 2010. Là, on les voit revenir, mais pas autant qu'avant.
Ce qui se passe en ce moment ressemble en fait beaucoup à la période pré-crise. Le marché est redevenu complètement fou. Les prix augmentent à une vitesse anormale. Ça va beaucoup trop vite. 8, 10% de plus chaque année. Il y a moins de biens en circulation, c'est pour ça.
Est-ce que ça vous inquiète ?
Non.
Non, moi je veux que tout aille mal de nouveau. C'est comme ça qu'on fait de l'argent.
Mais est-ce que vous dites parfois que ce que vous faites est mal parce que des gens n'ont pas assez d'argent, sont expulsés ?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous participions aux enchères ou pas, les banques saisissent les maisons de toute façon et ensuite elles mettent les gens dehors.
Est-ce que tu peux garder les affaires ?
Ah, parce qu'il y a une enchère maintenant ?
Going once, going twice, sold.
Tom Ruff, vous êtes analyste du marché immobilier ici à Phoenix.
Comment les choses ont évolué en 10 ans ? De quel marché à quel marché on est passé ?
Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec l'immobilier. Certains achètent pour revendre et d'autres achètent pour louer. Ce qui s'est passé dans les années 2011, 2012 et 2013, c'est que des fonds spéculatifs sont venus sur notre marché. Ils ont acheté beaucoup de maisons. Il y a eu Invitation Home, American Home for Rent, Colony, pour n'en citer que quelques-uns. Ils ont acheté des milliers de propriétés qu'ils possèdent toujours et qu'ils louent.
Quel effet ça a sur le marché de la location ?
Les propriétaires qui ont perdu leur maison sont devenus locataires, dans la mesure où ils y habitaient, ce qui n'était pas toujours le cas, car il y en a aussi beaucoup qui avaient acheté plusieurs maisons juste pour spéculer. Mais il y a tout un stock de nouveaux locataires. Comme ils avaient été saisis, ils ne pouvaient plus emprunter et donc plus acheter. Ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est que les logements abordables sont ceux dont les prix augmentent le plus. On en construit moins qu'avant. Le stock de logements disponibles dont les prix moyens est faible, très très faible. Or, si vous tenez compte des logements qui ont été achetés par les grands fonds financiers, cela réduit bien plus qu'on ne pense le nombre de logements disponibles à la vente. Et ces fonds n'ont pas acheté pour revendre. Leur plan, c'est de continuer à acheter, louer et de faire ça pour toujours. Ils ne vendent pas, ils louent.
Avant la crise de 2008, Wall Street n'investissait pas dans le marché locatif privé. Aujourd'hui, le plus gros bailleur du pays, c'est Invitation Home, une entreprise créée par Blackstone, l'un des plus grands fonds alternatifs du monde. Les firmes de Wall Street possèdent maintenant 200 000 logements aux USA. C'est peu sur un stock de 17 millions de locations, mais ceux qui analysent le marché immobilier avouent ne pas savoir tracer exactement qui achète quoi. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que les locataires des entreprises de Wall Street ont déjà été transformés en produits financiers nommés Single Family Rental Securities. Vu de Wall Street, ces investissements ont permis de remettre sur le marché des maisons qui avaient été abandonnées, squattées, détériorées, ce qu'on a appelé les maisons zombies. Il n'y en a presque plus aujourd'hui. Le chaos créé par la crise a fait des gagnants, des perdants, et les grands perdants, ce sont les jeunes Américains, dénonce Daniel DiMartino-Bus, ancien économiste à la Réserve fédérale de Dallas, devenu aujourd'hui l'une des plus virulentes critiques de la politique monétaire menée par son pays.
Après la crise, le marché de l'immobilier est reparti à la hausse tellement vite que cela a empêché toute une génération d'accéder à la propriété. Quelqu'un qui est jeune et qui vient de fonder une famille, c'est ça un acheteur naturel aux États-Unis. Il peut avoir envie d'acheter aux enchères une maison qui a été saisie, mais comme avant il louait, il a besoin d'un crédit immobilier et cela prend du temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la politique de la Réserve fédérale américaine, les fonds financiers ont eu accès à beaucoup d'argent, ils ont pu facilement lever des milliards et des milliards ici à Wall Street, et puis ils ont acquis des maisons à la place des acheteurs naturels pour qui ces maisons auraient été idéales. Les primo-accédants ne pouvaient pas les battre puisqu'il leur fallait du temps pour monter leur crédit alors que tous ces fonds financiers payaient cash.
Mais s'ils louent ensuite les maisons à un prix raisonnable ?
Mais ils ne sont pas raisonnables, c'est ça le souci. Les loyers pour une maison n'ont jamais été aussi élevés, même chose pour la location d'appartements. Pour acheter, c'est au plus haut aussi. Tout ça parce qu'il y a des acheteurs non naturels qui se sont engouffrés dans ce marché, ce qui a poussé les prix vers le haut bien plus vite que cela n'aurait dû. Et si les prix sont autant montés, c'est à cause de la politique de la Banque centrale américaine. Quand les taux d'intérêt sont proches de zéro, le seul moyen pour un promoteur ou un investisseur de faire du profit, c'est de construire des maisons cossues ou des appartements de luxe. Construire beau, cher, faire rentrer des loyers de 2, 3, 4 000 dollars et ainsi contenter les investisseurs qui ont une faim immense de rendement élevé. 8 appartements sur 10 construits depuis la crise sont des appartements de luxe. Maintenant, l'écart se creuse, pas seulement entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, mais entre ceux qui peuvent vivre et ceux qui n'en ont plus les moyens. En résumé, je dirais que la réserve fédérale américaine a mis 2 balles dans le cœur de toute une génération. Et c'est pour cela qu'il y a de la colère.
Donc là, je suis dans la voiture. Ce qu'on entend, c'est la climatisation. Encore, j'ai pas mis très fort. En vrai, c'est comme ça. Parce qu'il fait 45 degrés à l'extérieur, 45 degrés à l'ombre. Donc là, je commence à voir le downtown de Phoenix. Donc les quelques gratte-ciel. Il n'y en a pas énormément, il y en a une dizaine environ. Bien sûr, au-dessus de ces gratte-ciel, il y a surtout des noms de banques qui se sont notamment illustrés par des pratiques assez malhonnêtes, notamment Wells Fargo.
Nous arrivons à Cherry Hill, la colline des cerises. Il n'y a pas de cerisier sur la colline est un cul-de-sac et il y a 2 cactus pour tout le quartier. Les maisons ressemblent à des mobilhomes à peine améliorés. Devant l'une d'elles, on lit écrit à la craie sur le sol « Nous aimons notre nouvelle maison ».
Voilà.
Bonjour.
Voilà.
J'ai vu qu'il y avait écrit « On aime notre nouvelle maison » devant chez vous.
We love our new house. Mm-hmm.
Vous avez des enfants ?
Yep.
Et ce sont eux qui ont écrit cela ?
Yep.
Oui, ils aiment leur nouvelle maison.
On est arrivé il y a 2 semaines.
Combien coûte votre loyer ?
$900.
Ce qui est bien ici, c'est que l'électricité et l'eau sont compris. Vous connaissez APS, la compagnie d'électricité ? Eh bien eux, je les ai dans le collimateur, parce qu'ils savent très bien que nous n'avons pas beaucoup de revenus, et pourtant ils nous font payer $300 à $400 par mois juste pour le frigo et l'air conditionné.
Elle s'appelle Mandy, lui Steven. Ils ont la quarantaine, 2 enfants chacun, et n'ouvrent pas la grille de leur porte, méfiants. Elle vend des coussins sur Internet. Lui a voté Trump, même s'il le déteste. Ils se sont retrouvés dans ce trou après une expulsion. Phoenix a le 2e taux d'expulsion le plus haut des États-Unis. Est-ce que vous avez dû aller dans un refuge ?
Dieu merci, non. Mon père a payé pour que nous puissions emménager. Ça coûtait $2000. Aller au jugement ou pas, ça n'a aucune importance. Le problème, c'est qu'ils sont très stricts avec la loi. Même si le juge vous écoute, vous comprend et estime que ce qui vous arrive n'est pas très cool, il doit suivre la loi. Vous avez payé votre loyer, oui ou non, c'est noir ou c'est blanc. Mon mari, par exemple, a été opéré du côlon, une ablation. Du coup, il ne pouvait pas travailler et nous étions en grande difficulté, mais le juge, il n'y peut rien.
Il n'y a pas de sécurité sociale quand on a un tel problème ?
Ah, il y a un colis qui arrive.
Oui, ce sont tes médicaments. Il y a beaucoup de sans-abri par ici, beaucoup.
À quelques blocs, plus au sud de ce quartier, il y a un trailer park, ou parc à mobilhome. Il y en a des dizaines et des dizaines autour de Phoenix. Ici se logent tous ceux qui n'ont pas les bons papiers, pas les bons revenus ou des antécédents judiciaires. $500 par mois l'emplacement, auquel s'ajoutent toujours $400 d'eau et d'électricité. Certains parcs à mobilhome ont une piscine, d'autres sont réservés aux plus de 55 ans.
C'est à moi, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner. Alors c'est vraiment impressionnant quand on est sur ces 3x3 voies, ces grandes routes qui ne sont même pas des autoroutes, de voir, bon bah là il y a un gun show par exemple qui est proposé, et de voir aussi toutes les solutions pour obtenir de l'argent facilement. On peut gager sa voiture, on peut tout gager en fait. Il y a des affiches, get cash now, ayez du liquide tout de suite. Et bon, ça donne le sentiment quand même que les gens sont souvent à court de liquidité, et c'est notamment pour payer leur loyer. Hein. Voilà, là, il y a par exemple un cash loans, donc c'est un endroit où on peut gager sa voiture pour pouvoir obtenir un peu d'argent tout de suite.
Les solutions alternatives, les Américains qui galèrent, les ont déjà toutes explorées. Il y a aussi les aides fédérales, mais elles ne concernent que 2 millions de ménages quand la pauvreté touche, selon les statistiques officielles, 46 millions de personnes. En moyenne, il faut attendre 2 ans et demi pour espérer une aide. Certains États ont même fermé les listes d'attente. Ce jour-là, il y a peu de monde au centre d'aide au logement de Phoenix Centre. Surtout des femmes avec enfants. Il y a Denise, 38 ans, sans dents, qui loue le Seigneur d'être aidée à 100% pour son loyer et son portable. Un jeune couple qui s'engueule doucement. Magda avec sa jeune fille Inès. Elle a 2 autres enfants, tous adolescents, et tous les 4 squattent.
Je vis chez une amie, je n'arrive pas à me loger. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je trouve une maison, ici, ils me disent que c'est trop cher, que le loyer est trop élevé pour qu'ils puissent m'aider. Ils ont déjà refusé 3 maisons que j'avais trouvées. Je suis tout le temps stressée. Ce n'est pas facile de vivre avec mon amie. Elle a aussi ses enfants, c'est très dur pour elle et pour moi.
Magda a un travail, elle est aide ménagère et gagne 1 200 $ par mois. Pour la nourriture, elle utilise les bons alimentaires. Pour le loyer, elle touchait une aide jusqu'à ce que Invitation Home devienne son bailleur depuis Wall Street.
Au début, le loyer était de 900 dollars il y a 3 ans. Puis la deuxième année, il est passé à 1100. Puis la troisième, à 1250 dollars. C'est là qu'ici, ils m'ont dit que je devais déménager car cela devenait trop cher. Ils ont coupé mon allocation et c'est pour ça que je suis partie. C'était il y a 3 mois.
Est-ce que vous avez déjà dû aller dans un centre pour sans-abri ?
C'est plein. Je le sais parce que j'ai une amie qui est dans la même situation que moi et elle m'a dit que le centre pour sans-abri était plein. Il n'y a plus de place.
Thank you for calling Central Arizona Shelter Services. Para español, marque el número 8. If you are seeking shelter or supportive services, press 1. For Vista Colina, press 2. For dental services, press 3.
Le plus grand centre de sans-abri de Phoenix, celui réservé aux adultes isolés, est downtown, pas très loin des gratte-ciels et des nouveaux appartements luxueux qui jouxtent le quartier des bars, des terrasses et des cafés. Quand on s'en approche, on le sent, car là, on voit des piétons. Puis des tentes de fortune, des caddies, des sacs en plastique qui volent. Paula Volk supervise les lieux de 14h à 22h.
We have 470 clients in here at night.
You call them clients?
We do call them clients.
Le centre reçoit 470 adultes qu'elle nomme des clients. Le centre va bientôt fermer ses portes, c'est l'heure de pointe. Entre celles qui attendent leurs affaires laissées à la consigne pour la journée et ceux qui passent les portiques, il y a une centaine de personnes. Pour entrer, il faut vider son sac comme à l'aéroport. Alcool, drogue, armes sont interdits. La fouille est minutieuse. Un jeune homme pose ses bottes de chantier sur le tapis roulant.
Personally, I'd like to have at least about $1,500. Yeah, that should be enough to get me a down payment.
John a un travail. En restant ici quelque temps, il espère économiser 1 500 $ pour sa future caution. Il y a aussi Douglas, un vétéran dont la maison a été saisie pendant la crise. Après un long séjour chez son fils, il lui a demandé de partir. Il y a Jennifer, la cinquantaine, en tricot rose, qui sort de l'hôpital.
Women on the floor.
Dans le quartier des hommes, comme celui des femmes, il y a 3 sections. Section 1, un dortoir de 200 lits superposés. Section 2, les lits sont séparés par de petites cloisons, comme dans un open space. Section 3, totalement fermée, pour les sans-domicile fixe qui travaillent. Il y a quelques sans-papiers parmi nos clients, explique Paola. Mais ils viennent surtout des États voisins. Les statistiques officielles le confirment. Après avoir baissé chaque année depuis la fin de la grande récession en 2009, le nombre de sans-abri repart à la hausse aux États-Unis. Pour Lisa Glow, la présidente de toutes les infrastructures d'accueil aux sans-abri dans l'Arizona, cette recrudescence trouve ses racines dans la crise des subprimes.
Je pense que c'est tout à fait lié. Avec la perte de leur maison, plus de gens ont dû louer. Et qui dit plus de locataires, dit loyer en hausse. C'est comme ça en économie. Quand il y a plus de demandes, les prix montent et donc plus de sans-abri. On dit chez nous qu'il y a un Starbucks à tous les coins de rue. Les SDF, c'est pareil, et même plus encore. Je n'ai jamais vu une telle situation, si grave. Et toutes les personnes qui font un peu attention vous le diront aussi. On n'a jamais vu ça avant. Il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent sans abri parce qu'elles ont perdu leur travail, n'avaient plus assez de revenus et ont été expulsées. L'an dernier, 30% de ceux et celles que nous recueillons avaient ce profil. Or, selon les données que nous avons pu rassembler, le mois dernier, c'était 46%. Donc le nombre de personnes qui deviennent sans-abri pour des raisons économiques augmente. Et c'est comme ça partout, pas seulement en Arizona. Ça, c'est la crise que je vois. L'autre chose, ce qui augmente le plus quand on regarde les statistiques, c'est la proportion des seniors dans les centres de sans-abri. 28% de ceux qui viennent chez nous ont plus de 55 ans. Ils peuvent avoir 60 ans, 70, parfois 80 ans. Oui, c'est choquant. Et c'est une tendance dans tout le pays. La situation des seniors est très préoccupante, car si vous avez plus de 62 ans, que vous avez un revenu fixe, si vous êtes expulsé et que vous vous retrouvez dans la rue, il n'y a aucune chance pour que vous retrouviez un travail. Aucune. Que peut-on faire de ça? Ils viennent dans nos foyers avec leurs déambulateurs, leurs cannes. C'est incroyable quand on le voit. La crise du logement, c'est la vraie crise, souterraine. C'est une crise du logement abordable, pas du marché immobilier.
Et que fait le gouvernement ?
Il ne fait pas assez. Et au niveau fédéral, l'administration Trump a l'intention de réduire les fonds, ce qui serait un désastre. Je vais vous parler de la situation à Los Angeles, car cela ressemble beaucoup à ce qui pourrait arriver à Phoenix si nous n'agissons pas tout de suite. La ville de Los Angeles fait face à une crise des sans-abri. Elle a même déclaré l'état d'urgence à ce sujet. Cet état d'urgence, il faudrait le déclarer dans beaucoup d'autres villes. Je crois me souvenir qu'ils ont dénombré 37-38 000 sans-abri. Ils les ont comptés. Finalement, sous l'impulsion du maire et d'autres acteurs sociaux, une loi a été votée pour augmenter le budget affecté à la construction des logements abordables. La crise va s'aggraver si nous ne prenons pas des mesures ambitieuses partout. Parce que les gens vont juste passer les frontières d'un État à l'autre. Ici, en Arizona, on est envahi par des gens pour qui c'était trop cher de vivre en Californie ou à Seattle et qui viennent chez nous. Il faut penser le problème au sein des États et au niveau fédéral. Et bien sûr, la dernière chose dont nous ayons besoin, c'est que le gouvernement fédéral réduise les budgets comme cela a été proposé.
Voici le son que cela fait quand je rentre chez moi.
Troy, Amir, Lynn Tarr, Renee Wright.
Mr. Wright, it's you.
You have now met Mr. Wright.
Troy Wright a 30 ans. Il vient d'emménager un petit 3 pièces à Cherry Hill, la mal nommée colline des cerises. Troy n'est pas propriétaire. Il a été expulsé de son domicile il y a 9 ans, éloigné de ses enfants, accusé à tort, jure-t-il, de violence sur sa fille de 20 jours, qui est morte dans ses bras. Après ça, il a passé 7 ans dans la rue à San Diego et 2 ans ici, dans un parc pas très loin. Depuis une semaine, il a une clé.
Ah bah, mon clé. And I just found it too.
Qui? Avez-vous remarqué qu'il y avait plus de sans-abri dernièrement à Phoenix?
Je ne sais pas. Oui, oui et non. Il y en a plus qui arrivent dans la rue à cause de leur situation financière instable. À San Diego, d'où je viens, il y a de plus en plus de sans-abri, de plus en plus de gens jeunes, drogués, qui laissent tomber leur vie. Il y a des gens qui laissent tomber.
C'est une œuvre de bienfaisance religieuse qui lui a fourni gratuitement cet appartement, à condition qu'il ne retouche plus jamais à la drogue.
Je vais pouvoir me stabiliser, me reposer. J'ai enfin la possibilité de me construire, faire attention à moi, travailler, profiter de la vie, tant de joies qui m'ont été enlevées. Ça fait tellement longtemps, je ne veux pas tout gâcher. Sinon, ce sera reparti pour les non, et puis les baffes. Dieu dit tant l'autre joue, et toi tu l'attends, et là, paf, les claques qui tombent. Tu souris, tu dis merci, et au final, tu te reprends encore des claques.
Combien de fois un être humain peut-il être battu et fouetté avant de craquer ?
Des subprimes à la crise des sans-abri, un reportage de Marie Vienno avec François-Charles Domergue à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour prolonger la réflexion sur ce thème, l'économiste Norbert Gaillard est en studio avec nous. Vous êtes consultant indépendant, spécialiste des agences de notation et vous avez vous-même vécu plusieurs années aux États-Unis. Dans le reportage qu'on vient d'entendre, Norbert Gaillard, la responsable des infrastructures d'accueil des sans-abri, Lisa Glow, fait le lien entre la crise et l'augmentation actuelle des personnes sans-abri. Ce lien vous semble évident à vous aussi ?
Oui, effectivement. Enfin, on sait que vraiment la base de la crise de 2007-2008, c'est le problème de la crise de l'immobilier aux États-Unis. Très clairement, on a eu au cours de la période, je dirais à peu près du début des années 90 jusqu'en 2007 à peu près, un afflux massif de produits financiers qui étaient adossés à des prêts immobiliers. Et on a eu également beaucoup de spéculations durant les deux décennies 90-2000. Et c'est véritablement le catalyseur de la crise financière de 2007-2008. D'ailleurs, on l'a un peu oublié. Je suis un peu surpris que aujourd'hui on évoque les 10 ans de la crise. La crise, elle a débuté bien avant. On a eu la fermeture d'un fonds début 2007. D'ailleurs, il y avait un tout petit fonds détenu par BNP Paribas, et on a eu le choc finalement immédiat qui était la dégradation de milliers de produits financiers qui étaient adossés à des prêts immobiliers. C'était en juillet 2007 et ça a provoqué tout ce que l'on sait avec la crise Lehman, etc.
Oui, en fait, la crise a déclenché la crise et après la crise a augmenté la crise immobilière en fait. Voilà. C'était comme un...
Voilà. Oui, ça a été finalement une espèce de logique circulaire, puisque à la base on a un problème de l'immobilier. En parallèle, on a eu déjà à l'époque, au cours des années 90-2000, une politique monétaire qui était vraiment accommodante. C'est-à-dire que aujourd'hui, on considère, il y a un relatif consensus là-dessus, que les taux d'intérêt étaient trop bas à l'époque, au cours des fameuses années Greenspan. Et ce qui est souligné très justement par l'économiste l'ancienne économiste de la Fed de Dallas, c'est que on a cru trouver une solution en ayant des politiques finalement encore plus accommodantes. Et moi, je reste persuadé depuis déjà plusieurs années que ça a été une erreur, parce que avoir des taux d'intérêt aussi bas, finalement, ça avantage qui ? Principalement ceux qui peuvent emprunter massivement. Et comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Et on a vu pour cela des fonds divers qui ont emprunté massivement pour acheter des actifs financiers. Pas seulement d'ailleurs des biens immobiliers pour ensuite les revendre ou les louer, mais pour acheter tout un tas de biens. Lorsque l'on voit l'évolution depuis maintenant la sortie de récession, c'est-à-dire juillet 2009, quand on voit l'évolution du PIB et l'évolution des grands indices de prix ou même de l'indice Case-Shiller, qui est donc l'indice qui mesure les prix de l'immobilier, on a une divergence absolument incroyable.
Marie Vienno.
Oui, mais les actifs financiers, c'est pas en concurrence avec les humains, je dirais, enfin les Main Street, alors que l'immobilier, là, je dirais, ils viennent en concurrence avec des gens qui ont besoin de logements pour vivre dedans. On vit pas dans un produit financier.
Oui, c'est très juste, mais justement, le principal problème que l'on a eu, et c'est très bien décrit dans le dans le reportage, c'est que on a eu finalement les deux phases. La première phase où on a eu l'effondrement des prix de l'immobilier et finalement c'est entre guillemets faillite des ménages qui ont perdu leur emploi et par la même occasion qui ont dû quitter leur maison, leur appartement. Et dans la foulée, on a vu un effondrement des prix, mais très rapidement, on a vu des rachats. Donc 2008-2010, effectivement, des rachats en vue de revente. Mais le problème, c'est que revendre à qui ? Éventuellement à d'autres fonds, à d'autres financiers. Mais on avait déjà une classe moyenne qui avait énormément souffert et elle-même, elle a marginalement pu racheter des biens immobiliers, mais ça reste marginal. Et c'est pour ça que l'on a vu très logiquement, le 2011-2013, cette vague de location massive, en tout cas d'achat de biens immobiliers par des fonds, en vue de location massive à des particuliers. Et donc on se retrouve dans une situation, c'est ça vraiment qui est terrible, si on devait un peu résumer, c'est que au cours des années 90-2000, on a eu l'Américain moyen qui s'est endetté pour acheter un appartement, une maison. Dans un certain nombre de cas, il a perdu son emploi. Il a vu sa maison, son appartement saisi.
Il a perdu son capital.
Il a perdu son capital. Il se retrouve au mieux dans un appartement beaucoup plus petit ou éventuellement à la rue. Et lorsqu'il a la possibilité éventuellement de se loger, en caricaturant à peine, il va se loger à un prix de plus en plus élevé dans la maison ou dans l'appartement qu'il avait acheté et pour lequel il doit encore rembourser le crédit à la banque. C'est ubuesque quasiment. C'est
et on entendait cette dame locataire qui parlait de la hausse fulgurante des loyers, Marie.
Oui, et alors j'ai aussi rencontré dans le reportage, par exemple, Paula Volk, la personne qui me fait visiter le centre d'accueil. Elle m'a raconté à la fin que elle pouvait pas s'engager sur le long terme pour son loyer, donc on lui a proposé un contrat dans lequel les mensualités augmentaient de $200 par mois, parce qu'elle s'était engagée que pour 6 mois. Voilà, donc on trouve ce genre de choses, bon là qui sont des choses un petit peu, enfin épiphénomènes je dirais, mais sinon plus globalement, il y a effectivement un vrai problème sur le logement abordable aux États-Unis. Entre 2010 et 2017, les loyers ont augmenté de 50% dans les zones pauvres, alors que les salaires bien sûr n'ont pas augmenté dans ces mêmes proportions. J'ai trouvé un autre chiffre intéressant, depuis les années 90, 2 500 000 appartements qui se louaient à moins de $800 par mois ont été démolis ou transformés en bureaux ou en logements plus chers. Les logements publics, eux, sont en baisse. Les aides fédérales sont versées de moins en moins de personnes déjà, avant même que Donald Trump veuille encore réduire ses aides. Et donc, il y a de plus en plus d'Américains qui sont ce qu'on appelle « cost burden », c'est-à-dire qui dépensent plus de 30%, voire 50% de leurs revenus. Il y a un site internet, on mettra le lien sur le site de l'émission, qui propose de dire combien d'heures vous devez travailler au salaire minimum pour pouvoir vous louer un deux pièces. Donc, à Phoenix, c'est 66 heures. En Californie, c'est 119 heures, New York 115 heures, et alors le numéro 1, c'est Hawaï avec 150 heures, mais tout le monde ne va pas à Hawaï.
Et alors Norbert Gaillard, on assiste vraiment aujourd'hui à une hausse des inégalités.
Oui, on avait déjà, par certains côtés, on pouvait déjà constater une hausse des inégalités avant même la crise. C'est-à-dire que du fait de la politique monétaire accommodante, on avait une opportunité finalement plus forte pour des individus qui avaient déjà plus de capital emprunter pour faire des gains en bourse, etc. Donc c'est ce qu'on a vu. On a pu croire à un moment donné qu'ils seraient les grands perdants de la crise. Finalement, on a eu très rapidement un rebond boursier. Je crois de tête que c'est à peu près fin 2013 que le pic du Dow Jones atteint en 2007 a été dépassé. Et aujourd'hui, on voit que ça continue d'augmenter, enfin, le Dow Jones aussi bien que le S&P. Et il est évident que, comme on a pu le constater avec ce reportage à Phoenix, évidemment, les inégalités ne font que ne font que s'accroître. Et je crois que malheureusement, elle va encore continuer si on ne prend pas des mesures, à mon avis, qui sont des mesures fortes.
Et qui ne seront pas prises, on sait déjà qu'elles ne seront pas prises.
En tout cas, dans l'immédiat, je vois mal de toute façon l'administration Trump prendre des mesures draconiennes à cet égard.
Elle n'est pas du tout dans cette logique.
Elle n'est pas du tout dans cette logique.
Les impôts ont été réduits pour les grandes entreprises et c'est pour ça qu'ils demandent une baisse du budget du logement.
Oui, c'est franchement délirant. Et on peut d'ailleurs aussi se poser la question de savoir pourquoi on a quand même autant de citoyens américains qui ont voté Trump et qui habitent dans des zones difficiles tendues entre guillemets et qui surtout ont des revenus faibles. Et
là on entendait dans le reportage ce monsieur qui habite à Cherry Hill, qui en plus a eu des problèmes de santé, qui a été expulsé à la suite de ces problèmes de santé, il a voté Trump.
Oui, je crois que on a assisté à une campagne et à une élection qui était véritablement qui était unique, parce qu'on avait deux candidats qui étaient véritablement rejetés, même haïs par les deux camps. Même au suffrage universel, Hillary Clinton était devant, mais elle n'a pas été élue. Mais il y avait un vrai rejet de la personnalité d'Hillary, et ça a permis l'élection de Trump à la grande surprise hein, de tous les experts d'ailleurs.
Hein. Marie Vienno. Oui, il y a d'ailleurs eu des études. J'ai trouvé des études en fait qui font le lien entre là où les saisies immobilières, les foreclosures ont été les plus fortes et les scores de Donald Trump. Alors, au sujet des saisies immobilières, justement, vous vous êtes penché sur ce dossier, mais il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué dans le reportage, c'est le scandale des saisies frauduleuses. Oui, ce qu'on a appelé là, aux États-Unis, le foreclosure gate. Il faut quand même absolument en parler. On en a déjà parlé chez nous, mais je veux quand même le mentionner. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand les banques se sont retrouvées avec tous ces crédits non payés et donc ces maisons sur le dos, il y en avait tellement, et les prêts avaient été faits de façon tellement industrielle et parfois vraiment faite par des gens qui savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. On a l'exemple d'une employée de Wells Fargo qui a ainsi calculé qu'elle avait fait, elle avait signé 500 documents en moyenne chaque jour de prêt. Donc parfois les documents étaient tellement mal rédigés qu'il y a eu un espèce de flou sur les réels propriétaires des maisons. Et c'est là qu'il y a eu des délits commis par des banques qui ont parfois produit de faux documents, des documents un peu falsifiés pour pouvoir saisir des maisons dont on ne sait pas si vraiment elle leur revenait ou pas. C'est vraiment une très grosse affaire. Il y a eu des enquêtes fédérales, car là, c'est pas la crise, hein, mais c'est vraiment, on parle d'activités délictueuses, voire criminelles. Au final, il y a donc eu, comme ça se fait aux États-Unis, entre les 5 plus grandes banques de crédit immobilier aux États-Unis, donc Bank of America, Wells Fargo, que je citais dans le reportage, Citi, JP Morgan et JMAC Ali, il y a eu un accord. Et pour 25 milliards de dollars, il n'y a pas eu de poursuite. C'est un autre volet, voilà, extrêmement choquant de cette crise. Et d'ailleurs, j'enchaîne sur la question que je voulais vous poser. On voit donc aussi bien dans le foreclosure gate que là, peut-être dans ce qui se passe maintenant avec ces produits financiers adossés à des locataires, que finalement les pratiques de Wall Street, elles n'ont absolument pas évolué. Qu'est-ce que vous en diriez, puisque vous travaillez aussi sur la régulation financière et la finance?
Oui, on a eu effectivement, je dirais, un manque de réaction de la part, surtout de la part d'Obama, hein, il faut le reconnaître. Hein. On a eu, alors bon, à sa décharge, il n'a été majoritaire au Congrès que pendant 2 années, janvier 2011. Mais malgré tout, hormis la loi Dodd-Frank, qui est en partie, qui commence déjà à être détricotée par l'administration Trump, il a fait trop peu, déjà parce qu'il avait des conseillers qui étaient proches de Wall Street, tout comme Trump aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas pris la mesure du problème qui est, à mon avis, si on regarde les chiffres vraiment, c'est pire que la crise de 29. Mais
quel sens c'est pire?
Au niveau des montants de dette. Et au niveau je pense même du risque politique dans de grandes démocraties comme les États-Unis et certains pays d'Europe. Moi, je pense que la solution qui aurait dû être adoptée, et à l'époque, il y avait un relatif consensus. C'est assez surprenant, mais au cours des années 2009, 2010, 2011, on avait un relatif consensus au sein des des économistes, j'entends, puisqu'on avait par exemple Carmen Reinhart qui avait dit que, bon, qu'on l'on classerait plutôt à droite, qui avait elle-même considéré qu'il était peut-être temps de restructurer la dette des ménages. Et je pense que c'est l'urgence absolue aujourd'hui à faire. Donc on pourrait imaginer une présidence démocrate avec par exemple Madame Elizabeth Warren qui serait élue en novembre 2020 et qui, à condition d'avoir la majorité au Congrès, pourrait lancer une politique qui pourrait, en certains points, être comparable au New Deal de Roosevelt en 1933-1935, et qui, entre autres, lancerait un grand plan de restructuration de la dette, et, ou de rééchelonnement, mais une restructuration en tout cas partielle, c'est-à-dire on réduit la dette, d'une part, des ménages, d'autre part, on la rééchelonne là où vous deviez... 1 500 $ sur 10 ans, vous devriez 1 000 $ sur 20 ans, par exemple. Et les banques, évidemment, seraient les premières impactées, évidemment, et les fonds également, mais la Banque centrale serait là pour intervenir en dernier ressort, pour soutenir les banques qui seraient les plus exposés. Et c'est
on n'en parle plus ça maintenant parce que vous...
non on n'en parle plus, on en parlait un peu en 2009, 2010, 2011, mais on avait par exemple un gros blocage de la part des banques elles-mêmes, mais aussi même de certains régulateurs. On considérait que c'était infaisable, que c'était trop compliqué.
Mais vraiment trop compliqué, ou c'est à cause des conflits d'intérêts qu'il y avait toutes ces réticences ?
Non, c'était essentiellement parce qu'il y avait, je viens d'écrire là-dessus, mais on a un problème à la fois de conflits d'intérêts et, je dirais, de capture, la question de la capture du pouvoir politique par quelques lobbies, surtout les lobbies de la finance. On le voit aujourd'hui tous les jours aux États-Unis, par exemple, la personne, Monsieur Mulvaney, qui a été nommé à la tête du bureau de protection des consommateurs américains, est un ancien élu du Congrès. Il est républicain, et son objectif plus ou moins avoué est d'affaiblir l'autorité qu'il dirige, qu'il a par ailleurs précédemment critiqué. On sait que à l'époque où il était congressman, il était lié à des lobbies de la finance, à des lobbies bancaires. Donc, on voit que aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis depuis, ça fait maintenant plusieurs années, hein, ça fait presque 10 ans, hein, beaucoup d'ouvrages qui sont sortis sur le fait que la démocratie américaine aujourd'hui est en train de devenir en quelque sorte une ploutocratie et de plus en plus aux mains de grands lobbyistes, ce qui provoque justement cette espèce de glissement du pouvoir vers quelque chose qui est complètement inédit, parce que on parle beaucoup de néolibéralisme, on est au-delà de ces questions-là, parce que à l'origine le néolibéralisme c'était avant tout une idéologie qui s'opposait au communisme et au keynésianisme. On voit que dont l'un des leitmotifs était moins de dépenses d'État et moins de dettes. On voit que durant le paradigme néolibéral, donc on va dire depuis les années Reagan, on a toujours de plus en plus de dettes. On a malgré tout toujours de plus en plus de dépenses de l'État. On voit que on est entré progressivement, mais aujourd'hui vraiment ça nous saute aux yeux, dans une espèce de régime politique qui est un régime politique qui s'apparente plus sans doute à une sorte de démocratie avec matinée malheureusement de plutocratie. Et en plus il y a le problème du populisme qui
est une réponse à ça.
Qui est d'ailleurs, c'est le paradoxe, c'est que finalement on pouvait s'attendre à ce que le populisme soit une réponse aux inégalités. Mais on a finalement un populisme de droite, entre guillemets, Ce qui ne veut pas dire du tout qu'un populisme de gauche serait souhaitable. Et aux États-Unis, même Bernie Sanders, certes c'est un populisme, mais c'est quand même pas, je dirais, le symétrique de gauche de Trump, de mon point de vue. Mais on voit que finalement on a un paysage politique qui est d'ailleurs, à mon avis, biaisé par des questions, je dirais, beaucoup moins sociales que idéologiques. Et on voit par exemple qu'on a beaucoup de gens, entre guillemets, populistes, racistes, etc., qui ont voté Trump, alors que eux-mêmes, s'ils avaient suivi leur pur intérêt économique, ils auraient voté démocrate.
Et alors juste en un mot, Norbert Gaillard, on entendait Lou et John tout à l'heure, les animateurs de Property War, qui guettent la prochaine crise. Hein, ils en ont très envie parce que eux, ça leur rapporterait de l'argent, en tout cas ils le pensent. Est-ce que vous pensez qu'on est à nouveau dans une bulle avec la hausse des prix de l'immobilier qui pourrait éclater ?
Oui, on est dans une bulle, mais je dirais en plus, même pas n'importe quelle bulle, comme dans les années 20, où finalement dans les années 20, on avait eu un peu toute la population américaine qui avait profité de l'excès de crédit. Là, on a une bulle, mais avec un groupe de fonds qui et les banques qui détiennent une part de plus en plus importante de l'immobilier américain. Et là, c'est un vrai problème.
Merci Norbert Gaillard. De la crise des subprimes à la crise des sans-abri, le grand reportage de cette semaine était signé Marie Vienno, réalisation François-Charles Domergue, avec Pierrick Monsigny à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.